bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Comme le disait Philippe Descola, notre rapport à la nature dépend de notre culture. Le primatologue et éthologue France Deval, s'interrogeant sur l'existence de culture dans les sociétés animales, disait « Y a-t-il de la culture dans la nature ? Y a-t-il de la nature dans la culture ?» C'est une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre sans nous interroger sur notre place dans la nature, une place qui dépend de notre culture. Et indépendamment des sociétés humaines, le généticien Richard Leventine disait que les êtres vivants commencent non pas par résoudre des problèmes, mais par les créer. Et donc, s'adapter à un environnement, c'est transformer cet environnement, et c'est donc créer de nouveaux problèmes auxquels il va falloir s'adapter. Et la seule chose qui caractérise non seulement le monde vivant, d'ailleurs, mais le monde lui-même, c'est la permanence du changement. Et c'est vrai qu'il semble que nous ayons atteint, depuis peu, un changement d'échelle et un degré de rapidité dans ces transformations que tous les êtres vivants font dans leur environnement, qui pose des problèmes majeurs. On a souvent l'impression que nous ne l'avons réalisé que récemment, hein, que ça date des années 1970, la préoccupation pour nos relations avec l'environnement. Et en fait, c'est une préoccupation ancienne, et de manière assez étrange, celui qui a émis cette préoccupation il y a à peu près 130 ans est celui qui a découvert les relations étroites que nous entretenons avec le monde vivant qui nous a donné naissance, c'est-à-dire Darwin. Et il y a 130 ans, Darwin écrivait, reprenant une affirmation attribuée à Francis Bacon, « Knowledge is power », la connaissance est du pouvoir. Darwin écrivait « Jamais cette expression n'a eu autant de réalité qu'aujourd'hui. Il est probable que dans un avenir proche, le pouvoir matériel que l'humanité a acquis sur le monde conduira l'humanité à détruire, à faire disparaître l'ensemble des êtres vivants qui vivent sur notre planète, à l'exception, disait-il, de ceux que nous aurons conservés dans nos zoos, dans nos fermes et dans nos jardins. » Et cette prédiction, qui n'a pas été vraiment entendue, qui date du milieu de la révolution industrielle de la Grande-Bretagne, donc d'une période où notre impact écologique était encore proportionnellement relativement faible, non seulement se vérifie dans l'impact que nous avons sur l'environnement, mais aussi dans le fait qu'en ce qui concerne les mammifères, plus de 90% des mammifères aujourd'hui sont des mammifères domestiques ou d'élevage. Et donc la question est, je crois, il y a dans la technique un pouvoir qui peut être aveugle. Il y a dans la connaissance du pouvoir, mais il y a aussi une possibilité dans la connaissance de nous interroger sur les conséquences de l'exercice de notre pouvoir, et donc sur ses limites et sur ses contraintes. Et donc la question, c'est comment passer de l'irresponsabilité, de l'inconscience et d'une forme d'arrogance à de la conscience, de la responsabilité et à une forme d'humilité. Comment faire en sorte que le monde, et en particulier le monde vivant, mais pas seulement qui nous entoure, puisse non pas rester dans l'état où il est, mais puisse continuer à faire ce qui lui permet de se maintenir, c'est-à-dire constamment à évoluer et à se métamorphoser. Comment est-ce que nous pouvons maintenir ces conditions sans les épuiser ou sans les détruire ? La connaissance nous permet de comprendre les contraintes et les limites de nos actions. En général, rétrospectivement, en général, avec un temps de retard important. Darwin disait lui-même, d'ailleurs, que les petits changements qui provoquent toute la diversification du vivant, nous sommes lents à en apercevoir les conséquences tant qu'elles ne se sont pas manifestées d'une manière évidente. Et donc, cette réflexivité, elle s'exerce souvent a posteriori. Mais il y a une autre question de limite dans nos rapports avec la connaissance, c'est que notre connaissance a aussi toujours à tout moment des limites. Elle est riche d'incertitudes. Le physicien David Gross disait que la science efface l'ignorance d'hier et nous révèle l'ignorance d'aujourd'hui. Et donc, nous connaissons énormément de choses. Et d'un autre côté, notre savoir est très récent. Ça ne fait que 150 ans que nous savons que le monde vivant évolue. Ça ne fait que 90 ans que nous savons que l'univers évolue. Ça ne fait qu'une cinquantaine d'années que nous savons que les tremblements de terre et les tsunamis sont dus au mouvement continuel des plaques tectoniques. Ça ne fait que 50 ans que nous savons qu'une partie de la diversité du vivant émergent par transferts horizontaux de gènes d'une espèce à une autre et par symbiose. Ça ne fait qu'une vingtaine ou une trentaine d'années que nous savons que ce que nous appelons la biodiversité ne résulte pas simplement de la diversité génétique des êtres vivants, mais de la diversité avec laquelle les êtres vivants utilisent leurs gènes, y compris quand ces gènes sont identiques ou semblables. Et donc je crois qu'il faut à la fois, si nous voulons aborder les problèmes les plus graves, à la fois nous appuyer sur la richesse de notre connaissance et en même temps garder présente cette incertitude de la connaissance qui est d'ailleurs l'espoir de la recherche, c'est-à-dire que la recherche sera féconde et riche si elle nous révèle demain ce que nous ignorons aujourd'hui. Et je crois que dans les décisions que nous prenons, dans les actions que nous entreprenons, la place de cette incertitude, cette intrication entre connaissance et incertitude est importante parce qu'il n'y a pas de liberté sans incertitude, il n'y a pas de responsabilité sans incertitude. Et donc cette forme d'incertitude est au cœur de notre liberté et de notre responsabilité. Nous avons aussi un problème de relation avec le temps. Nos vies sont brèves à l'échelle de l'évolution, d'une partie de l'évolution du vivant, de centaines de milliers d'années, voire de millions d'années. Et d'un autre côté, nos vies sont très longues par rapport à certaines capacités d'évolution du vivant. Pour des bactéries qui se multiplient toutes les 30 minutes, une génération humaine de 25 ans, c'est 400 000 générations. Et à notre échelle, 400 000 générations, c'est le temps qui nous sépare des ancêtres communs à l'espèce humaine et à nos plus proches cousins non humains, c'est-à-dire les chimpanzés et les bonobos. Donc il faut penser ces deux temps, ces temps d'évolution beaucoup plus rapides que notre échelle d'évolution, et puis ces temps en même temps qui sont beaucoup plus longs, et l'intrication permanente de ces différents niveaux et de ces différents niveaux temporels. Darwin disait que sur les temps longs de l'évolution, les facteurs de l'environnement qui jouaient le plus souvent, pensait-il, un rôle majeur dans une espèce, c'était les relations de chaque individu avec les autres individus de sa propre espèce. Et donc, je pense qu'une façon de s'interroger sur nos relations avec la nature, avec notre environnement, dont nous faisons partie, c'est de nous demander en quoi et jusqu'où ils sont une conséquence de notre façon d'interagir les uns avec les autres. Est-ce que, pour le dire autrement, est-ce que nous pouvons respecter la nature et l'environnement si nous ne respectons pas les autres? Est-ce qu'il est possible que, d'une certaine façon, les changements que nous pouvons espérer vis-à-vis de notre environnement et vis-à-vis de la nature passent par des changements que nous devrions envisager dans nos relations sociales et dans nos relations les uns avec les autres à l'échelle humaine? C'était évoqué, il y a la question de bien commun. Et la question de bien commun, c'est-à-dire intéressant que Adam Smith, le père de l'économie libérale, dans La richesse des nations, qui proposait la force et la fécondité du marché, au XVIIIe siècle, posait le fait qu'il y avait des biens communs qui ne pouvaient pas être propriété parce qu'au fond, ils dépendaient de tout le monde et que c'était donc, disait-il, le souverain et le parlement qui devaient s'occuper de faire en sorte que ces biens communs puissent être disponibles à tous. Et donc il y a cette notion des biens communs, comment est-ce que nous les voyons? Est-ce que ce sont des biens qui n'appartiennent à personne parce qu'ils appartiennent à tout le monde et que d'une certaine façon ils sont trop importants pour chacun de nous pour qu'ils appartiennent à l'un d'entre nous? Et donc, comme le disait Philippe Descola, nous en sommes tous responsables, mais aucun d'entre nous n'en est propriétaire. Et donc il y a sans doute, si nous voulons changer nos relations avec, encore une fois, avec l'environnement et la nature, est-ce que dans un monde de compétition, d'exploitation, d'appropriation de toutes les ressources, c'est quelque chose qui est pensable? Ou est-ce qu'il faut changer notre façon? Et que si nous voulons accompagner la nature, la respecter, avoir une position d'humilité, est-ce que ça ne passe pas par un accompagnement, un respect et une position d'humilité vis-à-vis de ceux pour qui la nature est quelque chose d'indispensable, c'est-à-dire pour chacun de nous? L'idée, ça a été dit, que la croissance, s'adapter, évoluer, c'est changer. Ça n'est pas forcément croître, ça n'est pas forcément augmenter. Nous avons peur du changement, paradoxalement, mais nous avons une appétence de croissance. Sans réaliser ce que Galilée avait montré au XVIIe siècle et ce que Philip Anderson, dans un article célèbre, dans Science, avait intitulé « More is different », plus c'est différent, que l'accumulation du même, à partir d'un certain seuil, entraîne une transition et que donc plus du même, ça n'est plus la même chose. Et donc ça a des conséquences qui ne sont pas simplement prévisibles de manière linéaire à partir de l'accumulation. Les dangers qui nous menacent, c'est sans doute pas la disparition de l'humanité, comme on l'entend souvent, et encore moins la disparition du monde vivant, et encore moins la disparition de la totalité du monde vivant. Le problème qui nous menace, c'est une accentuation de la souffrance, de la disparition d'une partie de l'humanité aux dépens d'une autre partie. Nous savons, il y a toute une série d'études qui le montrent, que la dégradation de la nature accentue la pauvreté. Et nous savons aussi que la pauvreté expose aux modifications, à ce qu'on appelle les catastrophes naturelles. Un tremblement de terre à Haïti entraîne des dégâts infiniment plus considérables en termes de pertes humaines que le tremblement de même amplitude au Chili. L'ouragan de Katrina a entraîné la disparition et la souffrance des personnes les plus vulnérables à la Nouvelle-Orléans. Les canicules, en France, dans d'autres pays, en Russie, ont touché les personnes qui étaient déjà, avant que la canicule ne survienne, les plus vulnérables, les plus isolées, les plus exclues. Et donc on a une espèce de cercle vicieux. Notre dégradation de la nature appauvrit, rend vulnérable une partie des populations, et cette vulnérabilité rend plus fragile aux changements qui peuvent être provoqués au niveau de la nature. Et puis il y a la question du sustainable development, le développement soutenable, c'est-à-dire soutenable, maintenable, durable. Est-ce que nous pouvons collectivement penser un développement durable qui fait durer des tragédies pour une grande partie de l'humanité? 1 milliard de personnes qui souffrent des maladies de la faim, 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, 2 millions d'enfants qui meurent de pneumonie, 2 millions de personnes qui meurent de sida, 2 millions d'enfants qui vivent sous le seuil de la pauvreté dans notre pays. Donc, est-ce que nous pouvons penser un développement soutenable et durable vis-à-vis de notre environnement sans penser un développement équitable vis-à-vis de la génération présente, et le souci d'un développement qui soit possible pour les générations qui viennent? Il y a aussi un lien, je crois, étroit entre cette projection dans l'avenir et la pauvreté. Vous savez que la pauvreté rétrécit l'horizon temporel. Si vous ne savez pas si vous allez être vivant demain, le fait de savoir ce que les générations futures vont devenir devient assez anecdotique. Si vos enfants sont en train de mourir, le fait de savoir ce que les enfants de ces enfants deviendront devient quelque chose d'un peu futile. Et donc je crois que tant qu'il y a de la pauvreté et tant que les inégalités profondes existent au niveau du monde, à l'intérieur des pays riches et entre les pays riches et les pays pauvres, il est difficile d'avoir une projection commune à laquelle chacun participe dans l'espoir ou dans l'idée que ce bien commun soit un véritable bien commun. En d'autres termes, de manière assez triviale, un bien n'est commun que s'il est disponible pour tous. Et donc une des grandes questions, c'est les frontières que nous traçons entre ce que nous appelons nous et ce que nous appelons les autres. Ce qui m'étonne beaucoup dans certaines réunions qui parlent du réchauffement climatique, c'est la grande angoisse que le paludisme, le virus du Nil, commence à se propager chez nous, comme si au fond le fait qu'il ravage la moitié de la planète, ce n'était pas vraiment important parce que c'était les autres, mais que si jamais il venait dans les pays du Nord, c'était un problème qui concernait l'humanité. Donc un problème qui concerne l'humanité, c'est quand ça nous concerne. Quand ça concerne d'autres, ça n'est pas un problème qui concerne l'humanité. Donc je crois qu'il y a sans doute à repenser nos relations à l'échelle humaine avant d'imaginer que nous puissions avoir des... On parle de faire société avec la nature, et je pense que faire société entre nous est sans doute une condition préalable. Peut-être que faire société à la nature peut nous apprendre à faire société entre nous, mais je pense qu'il serait plus logique d'apprendre à faire société humainement entre nous et de penser que le reste suivra. C'est d'ailleurs un peu, si je reviens à lui, ce que pensait Darwin, qui pensait que ce qu'il appelait élargir le cercle de la sympathie, c'est-à-dire élargir le cercle de nos préoccupations aux êtres vivants, et pour lui, ce qui comptait, c'était les êtres vivants capables de sensibilité, d'émotion et donc de souffrance. Il pensait qu'il fallait d'abord établir des relations qui soient les plus respectueuses possibles entre les êtres humains, et c'est pour ça qu'il se battait contre l'esclavage, le racisme et les ravages de la colonisation, et ensuite se préoccuper de ce qui est essentiel pour les êtres humains. Paul Ricoeur disait, si on s'interroge sur une approche éthique, Paul Ricoeur disait qu'on entre en éthique Quant à l'affirmation par soi de sa liberté, on ajoute l'affirmation de la volonté que la liberté de l'autre soit. « Je veux que ta liberté soit », ajoutait-il. Et je crois que c'est une vision de la liberté qui est assez originale, parce que ce n'est pas la vision habituelle où la liberté de l'un s'arrête ou commence la liberté de l'autre. C'est une vision de la liberté qui inscrit la liberté dans la solidarité. Vous savez que souvent, on a tendance à opposer liberté et solidarité, hein, comme si la solidarité étouffait la liberté et que la liberté empêchait la solidarité. Cette vision de Ricoeur, c'est que la liberté, c'est quelque chose qui ne se conçoit que dans des relations intersubjectives et donc qui n'est pas préfiguré et qui se construit collectivement. C'est un des paris, si on peut essayer de tirer de la démarche éthique biomédicale depuis 70 ans quelque chose qui pourrait nous renseigner sur une éventuelle projection sur nos relations avec l'environnement. Il n'y a rien sans doute de plus précieux que la santé et le bien-être. Et si nous pensons que la nature est essentielle à notre santé et à notre bien-être, peut-être que nous pouvons réfléchir à ce que, à tort ou à raison, on a mis en place depuis 70 ans en ce qui concerne l'éthique biomédicale. Un point, deux points peut-être qui renvoient à ce que disait Ricoeur. La première, c'est la notion de choix libre et informé, qui est une notion importante. C'est une notion dans laquelle la connaissance est mise au service de la liberté de choix de chacun. Ça n'est pas la personne qui est mise au service de la connaissance qu'on a acquise sur elle et sur le reste. Donc il y a cette idée, au fond, que la connaissance est une condition nécessaire, mais non suffisante, à la construction d'un avenir humain. Si on la transpose cette fois, non pas d'un point de vue individuel, personne par personne, mais un point de vue un peu plus collectif, ce qui a été créé, ce sont des instances éthiques, avec une originalité peut-être. L'idée que l'expertise, la connaissance, la recherche est nécessaire et indispensable à l'élaboration d'une réflexion sur la manière dont il convient d'utiliser cette connaissance dans le plus grand respect de la personne, mais que cette connaissance, cette expertise est insuffisante. Et donc aujourd'hui, un comité d'éthique qui se préoccupe de santé, de recherche biomédicale ou de médecine et qui ne comprendrait que des médecins et des biologistes serait au niveau international considéré comme illégitime. La connaissance est nécessaire, mais la réflexion sur la manière dont il convient au mieux de respecter chacun d'entre nous demande de dépasser cette expertise. Et donc je crois que ce que nous dit, en tout cas la démarche éthique biomédicale, ce que dit la vision qu'a Ricoeur de cette liberté individuelle qui se tresse dans une forme de liberté collective, c'est une forme de discours sur la démocratie, une démocratie vivante, ce que Amartya Sen appelle un débat raisonné, un échange, où les meilleures réponses possibles émergent de la participation de chacun et où, au fond, l'intelligence collective, vous parliez d'imagination, où, au fond, l'intelligence collective, c'est l'intelligence croisée de tous ceux qui ont en tête non seulement la connaissance, mais les enjeux, le souci des autres et le souci de l'avenir. Je pense que ça nous demande aussi, et quand je parlais de cette réflexivité, je suis toujours très frappé, notre système de santé, mais ça n'est pas vrai que de la France, est un système qui est essentiellement axé de manière étrange. Vous savez que la Constitution garantit le droit à chacun de la préservation de la santé. Or, notre système de santé est construit sur la réparation des maladies et des dégâts. Plus de 95% de notre budget de santé est dévolu à la réparation, moins de 5% à la prévention. Et donc, nous nous retrouvons vis-à-vis de l'environnement et de la nature un peu dans cette même situation. Nous nous demandons comment réparer. Mais en fait, à long terme, ce qui est important, indépendamment des réparations à court terme qui sont indispensables, c'est comment prévenir, comment coexister, comment accompagner. Et donc, c'est une projection de prévention. Il y a une nécessité de régulation. Je pense que le piège de la planification, quand on veut trop bien planifier, c'est que ça emprisonne ou stérilise l'avenir. Et le piège du laisser-faire, c'est que ça nous exclut de l'avenir. Et donc, la réponse, c'est la régulation, le débat raisonné, le débat démocratique, la réflexion collective et la régulation. Et un certain nombre de droits. Là encore, je pense que nous avons une réflexion à faire si nous envisageons de donner des droits qui concernent nos relations avec la nature, voire à certains éléments par extension de la nature, à certaines composantes. C'est que nous avons tendance à proclamer solennellement des droits sans nous préoccuper de ce qu'Amartya Sen appelle l'accès aux droits, c'est-à-dire le fait de les faire rentrer dans les réalités. Quelques exemples, mais typiques. L'égalité de salaire des femmes et des hommes est inscrite depuis longtemps dans la loi, mais a du mal à passer dans la réalité. La scolarisation des enfants handicapés est inscrite depuis un certain temps dans la loi, a du mal à passer dans la réalité. L'accès aux soins palliatifs en fin de vie est inscrit depuis 1999 dans la loi, mais, d'après la commission Sicard, 98% des personnes dans notre pays qui en auraient besoin n'y ont pas accès. Et je pourrais continuer, vous savez qu'il y a un droit au logement qui est un droit inscrit dans la loi, mais qui malheureusement ne donne pas forcément d'habitation à ceux qui n'en ont pas. Donc je crois que si nous voulons réfléchir au droit et à la manière dont la régulation s'inscrit dans nos rapports avec la nature, il faudrait déjà réfléchir à la manière dont nous inscrivons dans la réalité les droits qui concernent nos relations les uns avec les autres. Et donc je pense que l'homme peut-il s'adapter à lui-même ? Moi, je crois que la question, c'est pouvons-nous collectivement nous adapter à nous-mêmes à l'échelle de l'humanité ? Et si nous nous adaptons dans le respect de chacun, peut-être que nous pouvons étendre cette adaptation à une adaptation respectueuse vis-à-vis de l'environnement et de la nature qui nous est nécessaire pour vivre. Je pense que le pire est toujours possible, mais n'est jamais certain. François Jacob disait que c'est l'espoir qui donne son sens à la vie, et avant lui, Martin Buber disait que la seule chose qui puisse être fatale à l'humanité, c'est de croire à la fatalité. Merci.